Monaco. Petite cité balnéaire, bien fréquentée. Alors, question. Est-ce qu'on peut être à la tête d'un paradis fiscal et finir au paradis? Je sais pas. Je suis pas à la tête d'un paradis fiscal, moi. Donc on n'entend pas parler de moi toutes les heures. Et je saoule personne. Allez, au revoir.
Salut Daniel, c'est Vincent de Lille. Bah, j'appelle moi pour dire que je vais voter oui à la Constitution européenne. Non, c'est une blague, hein. Je voterai non, trois fois non.
Une constitution définit les droits des citoyens et le fonctionnement des institutions d'un État. L'Union européenne n'est pas un État, ni même une fédération d'États. L'Union européenne est essentiellement un marché unique et une union monétaire. L'Union européenne fonctionne depuis 47 ans sur la base de traités internationaux. Rome, Pacte unique européen, Maastricht, Amsterdam et Nice. Donc rien dans la nature de l'Union européenne, ni dans les objectifs portés par le projet, ne justifie formellement la mise en place d'une constitution. Voilà. Allez, à bientôt Daniel. Salut.
Salut Daniel, c'est Emile de la Vendée. J'appelle parce que j'ai entendu comme ça que donc les tenants du non étaient majoritaires et qu'il y avait qu'une personne qui avait exprimé son souhait pour le oui. Donc je m'y colle, je suis de la Vendée. Et aux gens en Vendée, on a quand même le fou du puits, notre cher monsieur de Villiers. Et je me vois mal voter pour quelqu'un qui prêche le non et qui est ultra-libéral. Donc je ne voterai pas avec cette personne ni avec monsieur Le Pen. Quant à ceux qui ont lu le texte, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais je pense qu'au début du texte, on ne peut pas être plus clair. Quand dans l'article 3, la Constitution demande à ce que l'Europe œuvre pour le plein emploi et pour l'économie sociale de marché, c'est un fait, mais aussi pour le plus haut progrès social. Donc voilà, je tiens juste à dire que je suis lecteur du Nouvel Obs et du Monde Diplomatique, que j'écoute ton émission depuis le début et que j'espère qu'elle durera encore longtemps. Voilà, salut, au revoir.
Bonjour Monsieur Mermet, je suis comme on dit un quadra, j'exerce mon métier d'agent commercial en tant que profession libérale depuis plus de 10 ans. Je pratique donc le libéralisme tous les jours, je le vois fonctionner, évoluer, avancer, exploiter tout ce qui peut faire du profit, sans état d'âme, implacablement et cyniquement. J'ai dû apprendre à me méfier de ces sales coups, j'ai laissé des plumes, je tente de survivre. Donc c'est vous dire si je commence à savoir ce que c'est que le libéralisme. Alors comme je suis devenu d'un naturel méfiant, j'ai commencé à lire puis à l'étudier la Constitution. Le premier piège n'est pas bien loin, il est dans les 30 premières lignes, anodin en apparence. Il est à la fin du paragraphe 2 de l'article 1.3. Mais ce ne sont pas des conséquences de ce paragraphe, funeste pour les services publics et pour la solidarité dont je vous parlais, mais de la façon révoltante, sournoise, dont on veut nous faire avaler la pilule constitutionnelle. On nous demande de voter. Certes, il faut bien traverser le choix unique qu'on tente de nous imposer avec un semblant de démocratie. Le seul choix qu'on veut vous imposer, c'est justement de ne pas avoir d'autre choix que ce texte unique, sans autre alternative. Un texte qui prévoit d'instaurer le libéralisme ad vitam aeternam, puisqu'il prévoit de nous interdire la possibilité de revenir en arrière. Mais en nous faisant croire que c'est possible, mais seulement en réunissant des conditions telles qu'elles n'ont quasiment pas une seule chance d'exister un jour. Vous savez, un peu comme ces conditions inscrites en petit caractère au bas de votre contrat de téléphone portable, pour vous empêcher de le résilier. Et pour bétonner, pour empêcher toute tentative de sortie de la voie du libéralisme à outrance, ce texte prévoit même de nous priver du suffrage direct en matière de politique européenne, qui n'est déjà pas un modèle de démocratie, puisque les membres de la Commission européenne qui tentent d'imposer des directives libérales ne sont même pas élus. Alors, ce texte unique, qui tente d'imposer une politique européenne unique et libérale, sans retour en arrière possible, sans alternative possible, ça vous fait penser à quoi? Mais si, réfléchissez un peu, ce texte, une sorte de candidat unique, en somme, appuyé par de la propagande officielle et des grosses ficelles, des opposants menacés de sanctions d'un certain parti, des partisans de cette constitution qui n'argumentent plus et qui deviennent hargneux lorsque les sondages les effraient, ça vous fait penser à quoi? Ben moi, ça me fait penser à une nouvelle forme de totalitarisme. Allez, au revoir et merci pour votre émission.
Alors, je me demande si pour la constitution, je suis pour ou contre, je sais pas trop, mais la vérité sort de la bouche des enfants. Alors, je vais demander à Lawen, 2 ans. La WEN. Es-tu pour la Constitution européenne?
Non.
Voilà, je pense que je me suis décidée. Salut à tout le monde.
Et voilà, il y a des dizaines et des dizaines de messages comme ça dans le répondeur de là-bas, si j'y suis. Vous avez eu tout le week-end, je pense qu'il a pas mal plu. Ou alors, il y a une vraie passion, la passion constitution. En tout cas, beaucoup, beaucoup de messages entre ceux qui disent oui ou non, qui disent oui au non, et ceux qui disent non au oui. C'est passionnant, mais c'est long. Alors, je sais pas, on va peut-être faire une heure spéciale de répondeurs uniquement entre les... Parce que les analyses sont fines, c'est plein d'arguments. Il y a une prise de chou politique, là, qui est intéressante comme tout. Aujourd'hui, on va célébrer un anniversaire qu'on a un petit peu passé sous silence en France, le 20 mars 2003, que vous rappelle le 20 mars 2003, eh bien oui, l'invasion de l'Irak. Et Ignacio Ramonet, pas pour l'occasion, mais c'est quand même un peu le moment, sort un livre aux éditions Galilée qui s'intitule « Irak, histoire d'un désastre ». Et c'est un livre que j'ai trouvé passionnant et très lumineux sur cette offensive en Irak. Je ne sais pas si on aura le temps d'évoquer un moment, c'est un sommet de cynisme politique jamais atteint probablement dans l'histoire. En août 2002, avant donc le déclenchement, avant le 11 septembre, quelqu'un a dit, c'est un certain Andrew Card, a dit, il était chef du cabinet de George W. Bush, et alors que la décision d'attaquer l'Irak était prise, a dit, mais il faut attendre, parce que d'un point de vue marketing, on ne lance pas un nouveau produit au mois d'août. Voilà, c'est notre sujet du jour. Je rigole, mais c'est absolument atroce. C'est notre sujet du jour, Irak, histoire d'un désastre avec Ignacio Ramonet. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Bonjour, je m'appelle Josette, habitant Antony, sur le fief de Monsieur Devedjian. Je voudrais dire que Boris Vian disait qu'il y avait deux façons d'enculer les mouches. Avec ou sans leur consentement. C'est dire que j'ai conscience que ce traité de constitution sera adopté d'une façon ou d'une autre. Je voterai non quand même. Après, il me restera la rue pour m'exprimer, pour ne pas être entendu. Et ensuite, peut-être, la révolution. Et j'espère, j'ai deux enfants, mon fils a 33 ans, ma fille a 22 ans. J'espère qu'ils ne vivront pas dans ce monde. J'embrasse tous les auditeurs. Et non, de non, de non, je suis la poupée qui dit non.
Oui, bonjour, Christian en Bretagne. Je viens de voir quelque chose d'hallucinant, ça vous intéresse. Je sors de la déchetterie, c'est très intéressant. Je viens de voir un gars décharger une bagnole pleine de jouets et les foutre à la poubelle. Des jouets apparemment en bon état, plus ou moins neufs, mais 5 mètres cubes, quoi. Je déteste ce monde.
Oui, bonjour, c'est Mathieu, le lycéen de Jean Vigo à Millau, à Navéran. Donc, je voulais tenir au courant que je voulais avertir toute la France qu'aujourd'hui nous sommes sur le viaduc de Millau. Nous sommes en train de faire un péage gratuit. Donc, nous sommes à peu près 3 ans. Plusieurs organisateurs des grandes villes de France nous ont rejoints. Donc, à ceux qui diraient que la mobilisation s'essouffle en France, on leur répond que non. Il y a une très, très bonne ambiance. On distribue des tracts aux gens pour les avertir de ce qui est en train de se passer au niveau de l'éducation. On reste mobilisés. On retournera à Paris. On est en train d'envisager une marche à pied de Millau jusqu'à Paris avec des centaines et des centaines de lycéens. Donc, voilà.
Étienne Le Paris. De toute façon, j'en ai ras-le-bol. Le oui, le non, vous m'emmerdez tous. Démerdez-vous, je vous laisse vous débrouiller avec tout ça. J'en ai rien à foutre. Allez, au revoir, merci.
This night, personal EP. people to keep people put about rain and put about rain and
because war is peace.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Ignacio Ramonet, Irak, histoire d'un désastre.
Flight number 2, arriving from New York.
La plus ambitieuse opération de propagande et d'intoxication de tous les temps. Voilà comment vous qualifiez la guerre d'Irak, la guerre préventive d'Irak, histoire d'un désastre. Ignacio Ramonet, vous publiez ce livre à l'occasion d'un anniversaire discrètement célébré finalement en France. Hein.
Oui.
Le 20 mars, c'est-à-dire le deuxième anniversaire de l'offensive. On dit offensive ou...
L'invasion.
Invasion.
Ce que j'essayais de faire au départ dans le livre, c'est bien ça, c'est-à-dire faire un livre de ce qu'on appelle l'histoire immédiate. Hein. On découvre qu'effectivement cette affaire d'Irak, tout de même trottait dans la tête d'un certain nombre de personnes depuis pas mal de temps. Je veux dire que parmi les personnes qui entourent le président américain, dès qu'il est nommé, c'est-à-dire et il est élu, on s'en souvient, à la fin de l'an 2000, il prend ses fonctions en janvier 2001, dès qu'il est nommé, déjà des personnalités comme le vice-président Dick Cheney, ou bien le ministre de la Défense Donald Rumsfeld, ou bien le numéro 2 du Pentagone, c'est-à-dire Paul Wolfowitz, sans parler de ce qu'on a appelé par la suite les néocoms, tout ça, ils ont déjà une théorie toute prête de ce qu'il faut faire avec l'Irak. Alors évidemment, il leur manque l'événement déclencheur. Je rappelle par exemple un document qui est publié par Rumsfeld et Wolfowitz quelques années avant le 11 septembre, dans lequel ils disent c'est nécessaire de mettre au point un changement radical de politique, en particulier il est absolument nécessaire non pas de désarmer, parce qu'il y a maintenant la guerre froide, mais il est nécessaire d'augmenter le budget militaire, il est nécessaire de faire en sorte que aucune autre puissance ne puisse apparaître à l'horizon qui aurait le rôle qu'a eu pendant 50 ans l'Union soviétique à notre égard. Donc il faut que l'hégémonie américaine soit garantie. Et pour cela, bien sûr, il faut changer un petit peu la donne générale en matière de priorité. Mais bien sûr, pour faire cela, la société américaine ne va pas l'accepter. Pour que la société américaine en vienne, le cas échéant, à l'accepter, il faudrait qu'un événement cataclysmique se produise, un événement semblable à Pearl Harbor, un nouveau Pearl Harbor. Par conséquent, ils réclament de leur vœu un événement de ce genre. Alors, voilà que se produit le 11 septembre. On imagine que pour ces gens-là, même si c'est assez dur, je pense de le dire, mais pour ces gens-là, le 11 septembre, ça n'a pas été une catastrophe du tout. Le 11 septembre, ça a été l'occasion qu'ils attendaient depuis des années pour réarmer en quelque sorte l'Amérique et pour conduire un certain nombre de projets qu'ils avaient en tête, notamment, bien entendu, l'invasion de l'Irak.
Renaud Bernard, qu'entendez-vous? Que se passe-t-il à Bagdad?
Cela ressemble à une énorme offensive sur Bagdad. Les palais présidentiels sont tous visés. À 500 mètres de nous, le ciel est complètement illuminé comme en plein jour. Je vois le palais de la République qui n'existe plus, qui est pulvérisé. Je vois également plus loin à ma droite plusieurs ministères qui sont complètement pulvérisés. Et au fond, un autre ministère, je ne peux pas identifier tous les ministères vu la situation, mais en tout cas je peux vous dire qu'à 500 mètres de nous, il n'y a plus de palais de la République, c'est chose faite, et que dorénavant, la DCA semble bien impuissante. La moitié de Bagdad est recouverte de fumée. La rive gauche du Tigre est entièrement recouverte de fumée. Des bâtiments sont en flammes. Depuis 3 minutes maintenant, le ciel est complètement illuminé, mais pas par les tirs de DCA, pas par les tirs de batteries antiaériennes. Le ciel est complètement illuminé à cause des missiles qui tombent sur l'Irak.
Mais alors, pourquoi l'Irak? Alors, il peut être l'Iran, je sais pas quel rogue state.
Voilà. Ce qui est formidable, c'est que 2 ans après l'invasion, et pratiquement maintenant quasiment presque 2 ans après la victoire, on en soit à la victoire militaire sur l'armée de Saddam Hussein, parce que l'affaire irakienne est loin d'être réglée, mais on en soit encore à se demander tout simplement pourquoi cette guerre. Parce que il y a eu des arguments très officiels pour faire cette guerre. Des arguments, on ne peut plus officiels, qui ont mobilisé la société américaine. D'abord, il y avait cette accusation que l'Irak avait des armes de destruction massive. Ils avaient des armes chimiques, des armes biologiques, et ils étaient sur le point de se doter de l'arme nucléaire, disait officiellement l'administration américaine. Et je pense que chacun se souvient du discours qu'avait fait celui qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, hein, Colin Powell. Et Colin Powell, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, fait un discours avec des photos, on s'en souvient, dans lequel il dit « Mais nous savons très exactement où se trouvent les armes ». Peut-être que les inspecteurs des Nations Unies, dirigés par Hans Blix, l'ambassadeur, enfin le diplomate suédois, ne le sait pas, parce que bien entendu les Irakiens les trompent, mais nous savons exactement où ça se trouve.
Est-ce qu'il ment à ce moment-là, Colin Powell? Il sait qu'il ment.
Bien sûr qu'il ment.
Effectivement.
Il sait qu'il ment. D'ailleurs, nos auditeurs se souviennent, parce que cette scène, enfin cette déclaration a été retransmise par télévision en direct à l'époque, par beaucoup de chaînes, et on l'a vu d'ailleurs dans les journaux télévisés. Derrière Colin Powell, il y a tout simplement le directeur du FBI et le chef de la CIA. Tous les deux sont derrière et c'est eux qui ont élaboré le texte. Je raconte comment ce texte a été élaboré. Donc ce que lit Colin Powell, qui était d'ailleurs pratiquement en désaccord avec une partie de ce texte, c'est très exactement ce que les deux agences d'intelligence américaines lui disent de lire. C'est à l'époque qu'il avait montré une petite fiole également en disant... Voilà l'anthrax, voilà des poisons que ce régime fabrique. Et si les Nations Unies ne veulent pas aller détruire ces usines, nous allons y aller.
À New York, la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est publique. Elle est diffusée en direct par les radios et les télévisions du monde entier. Pendant près d'une heure et demie, Colin Powell, secrétaire d'État américain, a donc détaillé les preuves des États-Unis que l'Irak refuse de désarmer. Il demande à l'ONU de ne pas accorder à Bagdad le bénéfice du doute. À l'appui de ses propos, Colin Powell a présenté plusieurs documents, Laurent Simon.
Des preuves audio, nous en avons. Et on entend par exemple... Nous avons tout évacué, détruit ce message, on l'entend en arabe, sur les écoutes interceptées par les Américains. Il y a aussi des photos satellites. Colin Powell explique que 30 sites ont été nettoyés avant l'arrivée des inspecteurs, maquillés, lavés de toutes tâches. Des camions, 18 peut-être et au moins, sont transformés en usines chimiques. Le secrétaire d'État pose la question. Le problème n'est pas le délai pour les Américains, le problème est le temps à donner à l'ONU et aux inspecteurs. Combien leur en faudra-t-il pour retrouver 18 camions au milieu de milliers d'autres et combien en faudra-t-il à l'ONU pour dire assez? Les sources américaines que Colin Powell ne veut pas citer pour ne pas les mettre en danger expliquent que tout est fait aussi pour que les scientifiques irakiens ne participent pas aux interviews avec les inspecteurs. Ils sont forcés par le régime, par exemple, à signer des documents où ils seront considérés comme des traîtres et des espions et tués s'ils collaborent. Il faut qu'ils fassent des certificats de décès ou de maladie. Ils sont menacés ainsi que leurs familles. Colin Powell parle aussi des expériences chimiques sur des êtres humains et notamment sur des prisonniers politiques. Il revient sur le nucléaire en précisant que quelle que soit la nature des pièces importées, elles sont interdites.
Mais il y a sur un moyen qui pouvait à l'époque accréditer l'idée des armes de destruction massive, c'est qu'en effet, on avait fourni à l'Irak des armes auparavant, c'est-à-dire les États-Unis, c'est-à-dire les puissances, un certain nombre de puissances occidentales, dont la France, avait fourni, au moment de la guerre avec l'Iran, un appui et des armements à Saddam Hussein.
Tout à fait.
Saddam Hussein a été notre ami Saddam.
Notre ami Saddam. Je rappelle dans le livre que l'Irak, effectivement, c'était notre ami Saddam, en particulier au cours des années 80, lorsque l'Irak livrait une guerre à l'Iran. À l'époque, le grand adversaire de l'Occident, c'était la révolution islamique iranienne. Et il fallait surtout pas que la révolution islamique, qui était à l'époque dirigée par l'ayatollah Khomeini, l'emporte sur l'Irak. Alors, la France avait dépêché des émissaires sur place pour voir ce qu'on pouvait fournir en matière d'armement aux Irakiens. La plupart des pays arabes, l'Arabie Saoudite, le Koweït, etc., avaient octroyé des crédits sans limite au régime irakien pour qu'ils puissent acheter les armes. Et l'Allemagne avait également fourni des armes. La Russie avait d'ailleurs fourni des armes. Et les États-Unis avaient envoyé un émissaire à l'époque, rencontrer Saddam Hussein pour lui demander ce dont il avait besoin. Ce qui est tout à fait intéressant, je rappelle dans le livre, c'est que cet émissaire, le chef de cette délégation qui rencontre donc Saddam Hussein, c'était tout simplement Donald Rumsfeld, celui qui sera par la suite voilà le ministre de la Défense. Et Rumsfeld vient recueillir un petit peu les demandes. Et en fonction de ces demandes, les Américains vont installer à Bagdad toute une équipe d'officiers chargés de recevoir les informations à partir des satellites, de manière à guider en quelque sorte l'état-major irakien dans sa guerre sur le terrain contre l'Iran, et d'autre part fournir les éléments, disons, qui permettent de fabriquer des armes chimiques ou biologiques. You said we're headed to war in Iraq. You said...
Why you say that? I don't know why I say that. I hope we're not headed to war in Iraq. I hope we're not headed to war. I hope we're not headed to war. To war in Iraq. I'm the person who gets to decide.
Dans cette guerre contre l'Irak, vous affirmez que les principaux arguments pour attaquer l'Irak étaient faux. Alors on a évoqué les ADM, hein, armes de destruction massive. D'ailleurs il faudrait, et vous le faites très souvent dans le bouquin, vous analysez les mots, vous dites comment des officines ou des bureaux spécialisés en propagande nous fabriquent tout ça, y compris l'expression d'ailleurs « armes de destruction massive », qui effectivement c'est une expression très forte qui se fixe tout de suite dans les esprits. Mais il y a d'autres arguments qui ont été avancés, comme la proximité, alors après le 11 septembre évidemment, comme la connivence entre l'Irak et Al-Qaïda, il fallait que les deux mots s'emboîtent, là, se recouvrent, et puis Saddam, Oussama, même combat, que ce soit les mêmes monstres.
Absolument. C'est même le grand argument. C'est-à-dire, l'argument, en quelque sorte, qui convainc l'opinion publique américaine de soutenir cette guerre, c'est pas tellement les armes de destruction massive qui est un argument plutôt pour le Conseil de sécurité, à la limite. Hein. Mais l'argument qui consiste à dire mais en réalité Al-Qaïda et Saddam Hussein même sont combat. Liés et puis nous avons la preuve que Saddam Hussein en quelque sorte a organisé, a financé, a aidé à monter les attentats du 11 septembre, c'est ça qui va faire que au moment où cette guerre est déclenchée, disons 70-71% de l'opinion publique américaine selon la plupart des enquêtes soutiennent parce qu'ils pensent que cette intervention est une manière de prendre une revanche, de sanctionner en quelque sorte les attentats du 11 septembre. Or, nous savons, dans le livre, j'ai fait une enquête pour savoir bon sur quelle base, c'était en particulier le vice-président Dick Cheney qui le premier affirme ça, etc. En tout et pour tout, aujourd'hui nous savons que rien n'a été trouvé. Bien entendu, cet argument est officiellement, je dirais, faux. C'est-à-dire que, malgré toutes les recherches qui ont été faites dans les archives, etc., à Bagdad, on n'a rien trouvé. Et tout le monde sait, quand on connaît un petit peu la région, que le régime de Saddam Hussein, laïque, prétendument socialiste, etc., un régime qui avait consacré une partie de son énergie à combattre les islamistes, à combattre en particulier les tendances religieuses, notamment les chiites, dans son propre pays, qui a fait la guerre à la révolution islamique d'Iran pendant une bonne décennie, il est évident que ça ne pouvait pas se mélanger avec Al-Qaïda. C'est un peu comme l'eau et l'huile.
Quelque chose qui a séduit aussi, sans doute, à l'époque, l'opinion américaine, c'est se débarrasser d'un tyran. Et ça, évidemment, c'est une belle cause. Ça a séduit d'ailleurs une partie, souvenons-nous, de l'opinion française. Un certain nombre d'intellectuels se sont dit, voilà, c'est formidable, il y a un salaud là-bas, on va s'en débarrasser. Qu'est-ce que vous avez à contre une démarche aussi, aussi salutaire pour l'humanité que... Mais vous expliquez quand même dans votre bouquin que, c'est sûr, évidemment, Saddam Hussein était un très mauvais bougre, mais il n'était pas le seul quand même. Alors c'est pourquoi celui-là ?
Exactement. C'est-à-dire que cet argument qui a été utilisé quand les Américains ont commencé à se rendre compte, après d'ailleurs la victoire, l'occupation de Bagdad, que les deux premiers, ben, on n'arrivait pas à trouver le début d'une preuve. Hein. Et c'est alors que l'on a commencé à insister, on le disait, comme vous dites effectivement avant, on disait de toute façon, c'est tout de même un tyran, etc. Et il a commis des crimes épouvantables, ce qui est tout à fait vrai. Saddam Hussein était un tyran, mais depuis longtemps. Dire, même à l'époque où il était soutenu par l'Occident contre l'Iran, c'était déjà un tyran. C'était déjà un régime qui était en particulier très engagé dans sa guerre contre Israël. C'était déjà très connu. Et il avait déjà été extrêmement répressif à l'égard de sa population. Et cependant, l'Occident, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, l'a beaucoup aidé, officiellement aidé, contre l'Iran. Alors là, effectivement, ce troisième argument consiste à dire non seulement il a des armes, non seulement il est avec Al-Qaïda, mais en plus c'est que c'est une dictature, et donc par conséquent, nous allons débarrasser la planète quand même d'un des régimes les plus odieux qui soit. Dès qu'on regarde un tout petit peu la région, on se dit mais quand même, c'est sûr, Saddam Hussein est bien entendu un dictateur. Et pourquoi celui-là ? Pourquoi ne pas s'en prendre plutôt, alors que pour le dégommer, en quelque sorte, il a fallu faire une guerre de grande envergure avec, alors que les États-Unis pouvaient, ben, par exemple, instaurer la démocratie en Égypte. Par exemple, en Égypte, qui est quand même un régime, parfaitement tyrannique à l'égard de dizaines de milliers d'opposants qui sont dans les prisons. Aujourd'hui, nous savons, par exemple, que la CIA délocalise une partie des prisonniers qu'elle enlève à travers le monde, vers l'Égypte, parce que là-bas, la torture se pratique sans aucun problème. Or, l'Égypte, tout le monde le sait, apparaît comme un régime modéré. Pourquoi ne pas s'en prendre à la Jordanie ? La Jordanie, c'est loin d'être un pays, disons, démocratique, où il y a également une police secrète, etc. Pourquoi ne pas s'en prendre à, disons, l'Arabie Saoudite ? Voilà, l'Arabie Saoudite, où on est à des années-lumière de la démocratie. Et pourtant, c'est le meilleur allié des États-Unis dans la région. Pourquoi ne pas s'en prendre à n'importe quel des Émirats du Golfe, qui sont toutes des régimes, qui sont tous des régimes autoritaires, sans démocratie, discrimination à l'égard des femmes, répression à l'égard de tous les démocrates, etc. Pourquoi l'Irak ? Donc, c'est-à-dire que, et qui plus est, c'est-à-dire de la même manière que lorsque l'intervention a été faite, on a découvert tout de suite que, bon, en tout cas, c'était pas en raison des armes de destruction massive, parce qu'il n'y en avait pas. C'était pas en raison des liens avec Al-Qaïda, parce qu'il n'y en avait pas. Mais si c'était pour la démocratie, pour les droits de l'homme, qu'est-ce qu'on a découvert très vite ? Et là, vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que les médias américains qui avaient participé un petit peu dans toute cette aventure, je consacre quelques chapitres à cet égard, mais là, depuis que c'est le désastre, disons, de l'occupation, et ils se sont réveillés. Et notamment, qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert tout de même la pratique des tortures à Al-Qaïda. On a découvert la pratique des enlèvements, la pratique des séquestrations, la pratique des déplacements, c'est-à-dire que des centaines de personnes soupçonnées d'appartenir à Al-Qaïda sont délocalisées, soit dans des prisons d'Afghanistan, des prisons secrètes, hein, Bagram, dans les aéroports de Bagram ou de Kandahar, ou à Guantanamo. C'est-à-dire que, en Irak en particulier, la découverte de la pratique de la torture montre que cette prison qui était avant le lieu de la torture d'un régime, disons, odieux, bien entendu, dictatorial, est maintenant l'endroit où pratiquent la torture les forces d'occupation qui sont prétendument venues apporter la démocratie. Tout ceci a énormément troublé même les personnes qui, au départ, étaient favorables de bonne foi, je pourrais dire, à cette intervention. On voit bien, finalement, que la plupart des arguments, disons, officiels, ne tiennent pas.
To all the men and women of the United States Armed Forces now in the Middle East.
À tous les hommes et les femmes qui sont maintenant engagés,
y compris à la presse. Maintenant, c'est à vous, ça dépend de vous. Moi, j'ai placé ma confiance en vous. On connaîtra bientôt votre bravoure. Les gens vont voir de quoi est capable l'armée américaine. En face de quelqu'un qui n'a aucun regard pour, aucun respect pour les notions de respect en cas de guerre, lui-même a utilisé des enfants pour se protéger derrière. Je voudrais que le monde entier sache que les forces de la coalition vont essayer de faire tout ce qu'elles peuvent pour protéger les innocents. Et que cette guerre pourrait être plus longue que certains prédisent.
Will require our sustained commitment.
Et il faudra que nous soyons déterminés.
With respect for its citizens, for their great civilization.
Pour le respect et en respect de la grande civilisation irakienne.
We have no ambition in Iraq.
Nous n'avons pas d'ambition en Irak.
And restore control of that country.
Seulement de restaurer le contrôle de ce pays et de le rendre à sa population. Prions pour que tous ceux qui servent là-bas reviennent sains et saufs. Beaucoup d'Américains vont prier avec moi pour la protection de nos troupes et la protection des innocents.
Alors, on va essayer d'aller chercher des arguments moins officiels pour décrire cette histoire d'un désastre Irak. Donc, c'est le titre Irak de Ignacio Ramonet. Peut-être du côté des bonnes affaires. Il y a des bonnes affaires qui se sont faites sur cette guerre, autour de cette guerre, et qui sont en train de se faire et qui vont se faire parce que il y a la reconstruction. Ce qui est un énorme gâteau, la reconstruction. Alors, vous avancez quand même des chiffres concernant, par exemple, 2002, les achats en matière d'armement s'élèvent à la somme coquette de 80 milliards de dollars. Et ces 80 milliards de dollars sont partagés entre 6 sociétés. Voilà, il n'y a pas tellement de monde qui ça s'éparpille pas trop. C'est 6 sociétés qui se partagent ces 80 milliards de dollars, c'est-à-dire le produit national brut de la Colombie, pour prendre un pays que vous connaissez. Voilà, c'est quand même pas mal, 80 milliards d'armements. Alors ça c'est un aspect des choses. Et puis il y a effectivement la reconstruction, qui est un marché évalué à quelques dizaines de milliards près, à 100 milliards de dollars, et qui donne lieu à une guerre dans la guerre, et là on rejoint un vieux thème qui n'est pas exclusif aux États-Unis, c'est-à-dire la connivence, la connexion entre le politique et le militaro-industriel.
Voilà, c'est ça. Et dans une certaine mesure, j'ai rappelé la célèbre phrase de Eisenhower, qui disait lui-même à la fin de son mandat, il faudra qu'aux États-Unis, alors qu'il était lui-même républicain, le général Eisenhower, président des États-Unis au début des années 50, et qui disait lui-même, il faudra qu'à l'avenir, les citoyens américains se méfient de l'alliance entre justement les industriels de l'armement et les politiciens qui risquent de déclencher des guerres uniquement pour répondre aux intérêts de ces industriels. Et c'est lui qui avait créé cette expression, le complexe militaro-industriel. C'est pas une expression, disons, des opposants ou des critiques des États-Unis, c'est une expression du président Eisenhower. J'ai rappelé cette phrase. Pourquoi ? Parce que ce qui saute aux yeux, quand on analyse et qu'on cherche un petit peu les données, des données qu'on n'a pas vues tellement dans les médias, c'est que, effectivement, comme vous dites, même avant la guerre, juste avant la guerre, eh bien, ces budgets colossaux, 90 milliards de dollars, consacrés à préparer la guerre, et qui ne vont qu'à quelques entreprises, des entreprises dont je donne également par ailleurs l'évolution du cours de la bourse. Avant 2002, avant 2002, bien sûr, comme on était, ou avant 2001, comme on était dans les dividendes de la paix, et que les États-Unis, le père de l'actuel président, le père Bush, avait dit qu'il fallait désarmer, il fallait maintenant faire profiter à la société de ce qu'on n'allait pas dépenser en armement. Eh bien, toutes ces entreprises voyaient la valeur de leur action baisser. Dès qu'il y a eu le 11 septembre et que le pays s'est préparé à faire la première guerre, d'abord la guerre d'Afghanistan, et puis ensuite la guerre d'Irak, bien les actions ont monté, mais en flèche. Et on voit que c'est un petit groupe d'entreprises. Et pour la reconstruction, effectivement, dont les sommes sont astronomiques, on voit également que c'est un petit nombre d'entreprises. Mais curieusement, ces entreprises sont les entreprises qui cotisent le plus pour aider à l'élection du président Bush. Mais je rappelle aussi que l'entreprise Halliburton, c'est tout à fait intéressant, ça. On n'a pas beaucoup lu dans la presse. Par exemple, l'un des hommes les plus acharnés contre l'Irak, au point qu'on peut se demander si ça relève pas de la psychanalyse, c'est le vice-président Cheney, qui, depuis le début, je le raconte dans le livre, dès le début, avant même le 11 septembre, est là à côté du président, monsieur le président, c'est l'Irak qu'il faut abattre. Le général Wesley Clark a raconté, c'est une anecdote que je raconte dans le livre, Wesley Clark, c'était le chef de l'OTAN qui a dirigé la guerre du Kosovo. Hein, donc, bon, c'est un militaire. Il est démocrate, il n'est pas républicain. Mais bon, Wesley Clark a raconté que le matin du 11 septembre, il reçoit un coup de fil de l'entourage de Dick Cheney, qui lui dit, monsieur le général, mettez ça sur le compte de l'Irak. C'est lui qui raconte. On ne sait même pas qui a fait le coup. Mais déjà, on veut que ce soit l'Irak. Alors, Dick Cheney, que faisait-il quand il n'était pas vice-président des États-Unis? Pendant la décennie 80, pendant que Clinton était président des États-Unis, que faisait-il? Où était-il? Curieusement, il était président de l'entreprise Halliburton.
Eh oui.
Et Halliburton, c'est quoi comme entreprise? C'est une entreprise qui fabrique du matériel de forage,
équipement pétrolier,
des tuyaux pour gazoduc, pour oléoduc, etc. Et on découvre, je donne tous les éléments dans le livre, que lorsqu'il était président, vous savez qu'il y avait un embargo américain sur les affaires avec l'Irak. Quelle est l'entreprise qui, sous l'embargo américain contre l'Irak, pendant les années 90, a fait le plus d'affaires avec l'Irak? Curieusement, c'est Halliburton. Voilà que le vice-président Cheney, eh bien, comme d'autres, a tiré un profit formidable de, à la fois la guerre et l'embargo contre l'Irak. La guerre contre l'Irak et maintenant la reconstruction contre l'Irak, de l'Irak.
Plus breaking news on Fox News Live right now. This is a Fox News alert. I'm David Asman. Glad you could join us. The U.S. military one step closer to using Turkey as a launch pad for a possible war with Iraq. Let's go live now to Geraldo Rivera. He is in Adana, Turkey. Geraldo.
Alors, Ignacio Ramonet, évidemment, tout ça a été possible grâce à ce que vous appelez l'industrie de la persuasion. Là, c'est votre terrain. Vous connaissez bien toutes les manipulations. Vous avez étudié, vous avez travaillé sur toutes les manipulations médiatiques, symboliques. Et c'est vrai que ces mensonges d'État extraordinaires, quand même, ont été possibles grâce à l'accompagnement. Alors, médiatique, on l'a évoqué, mais aussi, vous évoquez un certain nombre de bureaux, d'offices, vous parlez de la psy-world, c'est-à-dire la guerre psychologique, vous nous parlez du Rendon Group, par exemple, de monsieur Rendon, spécialiste en marketing de guerre, c'est comme ça que ce garçon se présente. Et alors, on a comme ça un certain nombre de moments de cette guerre qui nous ont beaucoup émus, comme l'affaire de Jessica Lynch, cette pauvre jeune fille, vous nous dites que c'était une supercherie, la mise en scène du déboulonnage de la statue de Saddam Hussein, déboulonnage de statue, ça nous parle, voilà des images qui nous parlent, la capture de Saddam Hussein, vous nous expliquez, il y a eu un journaliste, un de nos confrères, qui a été conseillé sur la capture de Saddam Hussein. Enfin, ça fait quand même pas mal de manipulations.
C'est quand même formidable. Je veux dire, quand on... Objectivement, c'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, tout ce que j'essaie d'avancer, j'essaie toujours de le dire en m'appuyant sur des sources vérifiées, recoupées. C'est-à-dire, ça repose toujours sur un certain nombre d'éléments. Comme je disais au début, ce sont des éléments très dispersés que nous n'avons pas le temps de rassembler, tout simplement. C'est un petit peu ce travail que j'ai voulu faire. Et quand on voit tous ces éléments côte à côte, on se dit qu'effectivement, on est là tout de même face à l'une des grandes manipulations.
Vous parlez de L'OIS, par exemple, qu'est-ce que c'est L'OIS. Que l'OIS Office d'influence stratégique.
Office voilà. d'influence stratégique, c'est-à-dire, par exemple, prenons l'OIS. Hein, Office d'influence stratégique. Voilà qu'un jour, on apprend qu'au sein du Pentagone, c'est-à-dire au sein du ministère de la Défense, s'est créé un bureau d'intelligence stratégique. Et en quoi ça consiste, ce bureau? Eh bien, un certain nombre d'enquêteurs font des recherches et découvrent. C'est une initiative de Wolfowitz qui va être jeudi prochain nommé président de la Banque mondiale pour aider les pauvres.
Les pauvres sur les listes.
Oui, il va faire la guerre à la pauvreté. Il va faire la guerre. Enfin. Il sait faire la guerre.
Enfin.
Alors, voilà que Monsieur Wolfowitz crée un office qui s'appelle Office d'intelligence stratégique. On fait une enquête et on découvre que il y a là toute une série de spécialistes, justement, en manipulation, spécialistes de l'information, etc. Et dont l'objectif, c'est de produire des informations officiellement destinées à tromper ceux qui les reçoivent. Et plus précisément, il sera dit que ces informations sont destinées à tromper même nos amis, il est dit. C'est-à-dire que les médias amis. Donc, l'idée, c'est de créer une information. Alors, évidemment, le tollé est tellement grand, parce que malgré tout, même la presse américaine qui est pour la guerre et tout estime que c'est pas correct, qu'on dit, on va mettre ça de côté, c'est, effectivement, c'était une erreur, c'est des choses qui ne se font pas. Mais quand même, voilà, une machine de propagande officielle, on croyait que c'était réservé aux pays dictatoriaux, pays autoritaires, etc. Le Rendon Group. Ce Rendon, par exemple, que vous
qui
avez
est
cité.
Un guerrier de l'information. Il se présente comme un guerrier.
Il se définit lui-même, je suis un guerrier de l'information. Bon. Rendon Group, c'est tout ce qui est mise en scène, tout ce qui est préparation des esprits. Bon. C'est lui qui dit, vous avez remarqué que quand nos troupes sont entrées dans Bagdad, ils ont été reçus par des gens qui agitaient des petits drapeaux américains. Vous êtes-vous posé la question de où ils avaient trouvé les drapeaux américains? Ben, c'est nous, c'est ça notre boulot, c'est de donner des petits drapeaux américains pour que les gens agitent des drapeaux américains et qu'on puisse les filmer, qu'on dise voilà, nos troupes sont bien accueillies.
Le nouvel Irak aura également besoin d'un système carcéral humain et bien dirigé. À l'époque du dictateur, des prisons comme Abu Ghraib ont été des symboles de mort et de torture. Cette même prison est devenue le symbole de la conduite scandaleuse de quelques soldats américains qui ont déshonoré notre pays et ignoré nos valeurs. L'Amérique financera la construction d'une prison moderne et de haute sécurité. Lorsque cette prison sera finie, les détenus d'Abu Ghraib seront déplacés. Ensuite, avec le consentement du gouvernement irakien, nous détruirons la prison d'Abu Ghraib afin d'en faire un symbole du nouveau commencement de l'Irak.
Ce qui explique aussi ces aveuglements, ces indulgences et ces manipulations, c'est qu'il y a une grande cause derrière tout ça, et qui continue d'être une grande cause, c'est la lutte contre le terrorisme. Auparavant, c'était le communisme, c'est un peu les mêmes mots, mais le terrorisme, c'est encore mieux, c'est plus vague, c'est plus flou, ça permet plus de choses. Et alors vous nous dites, ben non, finalement, il n'y a pas tellement de terrorisme. Vous nous rassurez, là, c'est des bonnes nouvelles. C'est un bon livre qui donne des bonnes nouvelles, qui nous dit, ben non, finalement, le monde est calme, largement pacifié, largement apaisé. Donc, pour vous, ben voilà, tout va bien, et ces gens-là s'énervent pour rien.
Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, on parle du terrorisme comme ça, parce que, comme vous le dites, cette administration a trouvé là l'occasion de faire une nouvelle croisade. Et c'est quand même une administration, disons, qui est armée intellectuellement pour faire une croisade. Hein. C'est-à-dire, je parle de tout ce qu'on appelle les néocons, le projet pour le nouveau siècle américain, etc.
Toute et une puis, série. Il y a une mission divine. Hein. Vous citez George W. Bush qui nous dit... Je suis investi d'une mission divine, promouvoir une vision biblique de la politique menée par les États-Unis.
Absolument.
Donc c'est quand même...
Absolument. C'est Condoleezza Rice, d'ailleurs, je cite sa phrase, qui dit « Jusqu'au 11 septembre, ce président, on avait l'impression qu'il ne savait pas très bien ce qu'il devait faire. parce qu'il avait été mal élu. Tout le monde se souvient que c'est le premier président de l'histoire des États-Unis qui n'a pas été élu par les citoyens, mais qui a été élu par la Cour suprême, quand même, pour le faire, et qui avait eu tout le débat en Floride, etc. Et donc, pendant les premiers mois de son mandat, il ne savait pas s'y devait, alors qu'il avait été élu sur un programme quand même très conservateur, mais comme il avait été mal élu, s'il devait être gouverné un petit peu au centre, etc. Il pataugeait un petit peu, il hésitait, etc. Et quand il y a eu le 11 septembre, quand on les arrache, il se dit, c'est comme si une lampe s'était allumée au-dessus de sa tête. Tout d'un coup, tac, il avait l'idée, il savait ce qu'il fallait faire. Voilà, l'Amérique est là pour fixer le cap au monde et en particulier cette nouvelle croisade. Voilà, la mission divine, c'est la croisade contre le terrorisme international. Et là, évidemment, toute une équipe d'idéologues savent faire, parce que pendant des décennies, ils ont fait la guerre contre le communisme international. Il y avait l'Empire du Mal, ils ont inventé l'axe du mal. Je raconte comment cette expression a été créée, etc. Bon. Donc, ils ont l'axe du mal, maintenant, tout ça est au service de d'une très grande cause. Et effectivement, cette très grande cause, c'est le terrorisme. Et bien sûr, aujourd'hui, on ne parle que de terrorisme. Mais ce que j'ai essayé de faire, tout simplement, c'est revenir, par exemple, j'ai été consulté la presse d'il y a 30 ans. Prenons il y a 30 ans, et voyons ce que, dans les années 70, par exemple, qu'est-ce qu'on disait du terrorisme. Et je donne dans le livre toute une liste. Par exemple, si on prend le continent américain, à l'époque, il y avait des terroristes au Canada, parce que le Front de Libération du Québec n'hésitait pas à utiliser la violence. Hein. Il y a eu même des morts, hein, des enlèvements, etc. Aux États-Unis, il y avait les Black Panthers, il y avait les Portoricains, il y avait toute une série de groupes qui pratiquaient la violence armée. Hein. Dans la plupart des pays d'Amérique latine, il y avait des guérillas. Il y avait évidemment du terrorisme en Europe. Il y avait la bande Abadère en Allemagne. Il y avait
les Brigades Rouges en Italie.
Il y avait en France, il y avait des groupes qui pratiquaient l'enlèvement, voire l'assassinat, etc. Bon, pour ne pas parler du reste du monde. Et quand on compare le nombre de victimes du terrorisme de l'époque à aujourd'hui, on se rend compte que avant, le terrorisme était pratiquement il y en avait dans la plupart des pays, qu'il faisait beaucoup plus de victimes, et qu'aujourd'hui, disons, si on fait un peu le bilan, on dira que il y a de la violence politique armée dans une dizaine de pays au grand maximum. C'est-à-dire que si on compare le monde d'aujourd'hui au monde d'il y a 30 ans, effectivement, le monde est pacifié, le monde est tranquille, mais ce n'est pas l'impression que nous avons, parce que les médias aujourd'hui sont évidemment fascinés par ce nouveau terrorisme, parce qu'un acteur nouveau est apparu, qui est, disons, l'islam radical, hein, et qui n'existait pas il y a 30 ans. Et cet islam radical focalise aujourd'hui l'intérêt, mais aussi crée beaucoup de fantasmes. Hein. Mais le monde est tout de même, disons, vis-à-vis du terrorisme, il faut le dire tout simplement, il y en a moins aujourd'hui qu'il y a quelques décennies.
Situation actuelle de l'Irak, vous citez une phrase, un lapsus, on va dire, de George Bush, que les Américains adorent, ils appellent ça des bushismes, et qui est la suivante, « Cela prendra du temps de restaurer le chaos ». Voilà, il a prononcé cette phrase le 13 avril 2003. Effectivement, le chaos est restauré en Irak. Qu'est-ce qu'on pense de qu'est-ce que vous pensez de la situation aujourd'hui? Parce que on a vu les élections en Irak, on parle d'une démocratisation à petits pas du Moyen-Orient. Comment vous analysez la situation présente?
Alors, en ce qui concerne l'élection, finalement, on a dit, bon, très rapidement, c'est une victoire. L'élection, elle s'est produite comme on pouvait l'imaginer. C'est-à-dire que il y a deux communautés en Irak qui, effectivement, attendaient l'arrivée des Américains. On pense surtout aux Kurdes, d'ailleurs, hein, qui ont considéré que c'était, et ils ont raison, une libération, parce que le régime de Saddam Hussein ne les opprime plus. Il y a les chiites, qui étaient également très opprimés par Saddam Hussein et qui peuvent considérer que la situation est quand même beaucoup plus favorable, mais nous savons que la communauté chiite n'est pas particulièrement pro-américaine. Il suffit de voir deux autres communautés chiites, et les chiites sont tout de même articulés entre eux, même si, évidemment, c'est pas les mêmes, mais, disons, le Hezbollah, par exemple, libanais, la communauté chiite, le parti chiite, n'est pas tout à fait à l'aise avec les États-Unis. Les États-Unis, d'ailleurs, qualifient le Hezbollah libanais, par exemple, de groupe terroriste. De même que l'Iran, qui est quand même le grand pays chiite avec la révolution islamique au pouvoir, aujourd'hui, on sait que c'est dans le collimateur des États-Unis. D'autre part, quelle est l'avancée de la démocratie en Irak si la communauté sunnite ne participe pas, et elle n'a pas participé à l'élection comme on pouvait l'imaginer. Et même le premier ministre que les Américains avaient nommé s'est présenté aux élections, son résultat est extrêmement faible, donc il y a une défaite du candidat américain. Le grand vainqueur de ces élections, c'est la communauté chiite, et on peut imaginer quand même que le régime que cette communauté s'apprête à établir ne sera pas forcément un régime démocratique. En tout cas, il faudra que dans quelques temps, on interroge les femmes irakiennes pour savoir si elles ont gagné ou perdu, même aussi paradoxal que ça puisse paraître, en passant d'un régime qui était certes sanguinaire, mais qui, en particulier en ce qui concerne l'émancipation de la femme, était plus avancé que ne risque de l'être cette communauté chiite au pouvoir.
Merci à Ignacio Ramonet, je rappelle le titre du bouquin, Irak, histoire d'un désastre, aux éditions Galilée. Merci à Véronique Vanoli de l'INA pour les archives sonores. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas, j'y suis. Technique aujourd'hui, Jessica Fouchet, Antoine Viossa et Michel Thomas. L'équipe de Là-bas, j'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Le mail, daniel.mermet@radiofrance.com. Voilà, on se retrouve demain à 17h pour La Basse si j'y suis. Je vous laisse sans réclame, il n'y a pas de réclame aujourd'hui, avec Frédéric Bonneau pour Charivari. Salut!